Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver pour un week-end et un dimanche de folie sur RMC. Vous allez vibrer comme jamais encore aujourd'hui avec ce classique, notamment à 20h45 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Vous savez quoi, ce matin on s'occupe de tout. Vous avez juste à faire couler la cafetière, à beurrer les tartines et nous on est tranquille avec vous et on va vous parler évidemment de sport, de notre passion et forcément débattre dans cette émission. Au sommaire aujourd'hui, 3 ans après le Grand Chelem en 2022, le 15 de France de nouveau sacré dans le tournoi des 6 nations. Les Bleus ont-ils réalisé un grand tournoi? Ce sera la une des GG. À 10h, on va débriefer le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en Australie. C'était très tôt ce matin. C'est parti à 5h du matin. Donc je ne vous en veux pas, chers auditeurs, si vous ne pas tout regarder. On va tout vous raconter. C'est passé beaucoup de choses. Lando Norris s'est imposé. Jean-Luc Roy, notre spécialiste, sera avec nous et il viendra tout nous dire. Et puis 11h, le classique de la Ligue 1. Donc ce soir, PSG-OM. Tout le monde s'attend à une démonstration des Parisiens. Ce classique manque-t-il clairement de piment sportif? On se posera la question à 11h. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Fabien Galthié, résiste à tout, à Christophe Cessieux, à Denis Charvet. C'est Simon Dutin. Salut Simon.
Salut Guy, Jean-Christophe. Ben oui,
c'est pas facile. Hein.
Ouais, mais tu sais que les finisseurs ont pris de l'importance, ceux qui sortent du banc. Hein.
Voilà, faut en ce moment, tu sors beaucoup du banc. C'est vrai. Très performant.
C'est vrai. Mais en ce moment, à une époque, j'ai joué à l'arrière. Maintenant, je suis plutôt parmi les gros. Voilà, tu vois, on change de place sur le terrain, mais on reste efficace.
Je dirais pas parmi les gros. Personne n'est gros ici.
C'est sympa, Jean-Christophe.
Enfin, je vais présenter les sangliers dans quelques instants.
Les sangliers.
Je n'ai pas tourné la tête. Et vous me direz ce que vous en pensez. Une grande gueule qui, contrairement à Fabien Galthié, lui, il a toujours gagné contre l'Écosse. Et oui, monsieur Philippe Saint-André. Salut Philippe.
Salut à tous. Hein, c'est pour une fois, normalement, tu m'attaques. Tu me fais un plaquage cathédrale, attends. Et là aujourd'hui t'es gentil, je comprends
attends,
pas.
Attends, j'ai pas fini la phrase, mais il a toujours perdu contre l'Irlande. Philippe Saint-André, salut Philippe, ça va Philippe?
Très bien, super.
Toi les Écossais, c'était facile pour toi.
Ouais, c'est vrai. Alors en étant joueur, c'était les Irlandais, parce qu'ils avaient une génération pourrie. Je les ai joués, je crois, 8 fois, 8 victoires. Par contre, entraîneur, un match nul et des défaites.
Oui, et sélectionneur, mais c'est quand même tu battais tout le temps l'Écosse.
Ah, mais oui, l'Écosse, oui.
En tant que sélectionneur.
5 fois.
Bravo, mon cher Philippe. Et très heureux de te retrouver pour un nouveau week-end de folie en notre compagnie.
On va faire une belle matinée là-dessous.
J'espère. C'est prévu. Le programme est magnifique.
Il y a des beaux sujets.
Une grande gueule qui, comme Fabien Galthié, lui aussi, il a coulé les verres. Pascal Duprat, salut Pascal.
Bonjour Jean-Christophe, je m'attendais pas à quelque chose de sympa de ta part d'entrée. Bah en fait, c'est de ma faute, j'avais qu'à gagner.
Qui aime bien, châtie bien, tu le sais, mon cher Pascal. Et puis je trouvais que le parallèle Irlande-Saint-Etienne, c'était plus facile et efficace.
Super voilà. Sympa, merci, ça met tout de suite en forme ce que tu m'as dit là.
Voilà, même si évidemment, on le rappelle, Pascal Duprat a toujours repris des équipes. Parfois ça n'a pas marché, mais je préfère le dire. Mais en même temps, quand on lui file l'équipe à 5 journées de la fin, il ne faut pas toujours s'attendre à ce que ça fonctionne. On est très heureux de te retrouver aussi, Pascal.
Comme dimanche dernier,
nous avons la même équipe. Ça veut dire que je vais vous présenter quelqu'un. Maintenant, une grande gueule qui, contrairement à Fabien Galthié, lui, il a beaucoup d'amis dans le rugby. Cédric Evans,
bonjour Fabien. Je ne sais pas comment j'allais être attaqué, mais c'est vrai, j'ai beaucoup d'avis et en grande forme pour débattre.
Voilà, on est très heureux de te retrouver. Plus d'amis que Fabien Galthié.
Apparemment.
Voilà.
Je marche tranquillement dans la rue.
Même si on va en dire beaucoup de bien dans cette émission. Enfin, la question sera positive. Ensuite, ce sera à vous, évidemment, d'en juger. Alors, dans les grandes gueules du sport, chers auditeurs, nous avons beaucoup de choses à vous faire gagner. Tout d'abord, vous pouvez remporter dans cette émission vos places pour assister au quart de finale de la Ligue des Nations. C'est France-Croatie. C'est dimanche prochain, dimanche 23 mars à 20h45 au Stade de France. Pour remporter vos places, c'est très simple. Tout de suite, vous envoyez France par SMS au 732-16. France par SMS au 732-16. Amina, comme d'habitude, est au standard et peut-être que dans cette émission, dans quelques minutes, elle va vous appeler pour vous dire que vous avez gagné. Et puis, sur RMC, depuis vendredi, c'est le grand retour des 100 000 euros. Il faut absolument écouter cette émission. Ça va tomber à un moment donné. Vous allez pouvoir vous inscrire pour remporter sur cette antenne 100 000 euros, comme dirait
net d'impôt,
Vincent Moscato. net d'impôts. On sent que c'est important pour lui de parler net d'impôts.
Je voudrais pas avoir. On sait pourquoi.
Je voudrais pas avoir le nez dans ses finances, mais c'est important quand on dit net d'impôts. 100 000 euros, c'est uniquement à gagner sur RMC. Allez, on va débuter cette émission avec cette citation de Pierre Corneille qui a dit un jour sur de grands exploits bâtir sa renommée.
La une des grandes gueules du sport.
22 mètres, légèrement en droit des poteaux. Thomas Ramos pour l'ouverture du score. Quatrième minute au Stade de France. La pénalité, elle passe entre les poteaux. 3-0 pour les Bleus.
Et voilà l'ouverture du score pour l'équipe de France.
Qu'est-ce qu'il voulait passer? Peut-être il a donné. Oui, c'est fait. Boyfana, Boyfana, ouais, essai. Le premier essai des Bleus. Thomas Ramos face au poteau, sans problème certainement pour Thomas Ramos. Deux points de plus pour Thomas Ramos. Ça passe pour Thomas Ramos.
Encore
pour Thomas Ramos, qui devient le meilleur réalisateur de l'histoire de l'équipe de France, devant Frédéric Michalak. 438 points.
Russell,
ça passe
partout.
Entre les perches, 13 partout. 36e minute ici au Stade de France. Tout est à refaire pour les Bleus. Et le ballon qui passe entre les perches et les Français qui repassent devant. 16-13. Tout sera difficile, messieurs, dans ce match. C'est Russell qui court, qui court, qui court, qui va plus vite, qui est cartouché.
Ah, qui
et le ballon qui vient back-to-back. Allez, Robin. Il y va. Il remet l'intérieur, bien le tirage. Maintenant, les avants, les braves, l'heure des courageux. Avancer dans l'axe, c'est pas mal. Ça désaxe.
Oui, allez,
non, 1 mètre de la ligne. Ça sort à hauteur avec la sautée pour Ramos. Essai de Ramos.
Ils ont eu raison.
Essai de Ramos. C'est vrai qu'il s'en bouffe. La fin de passe.
Oh,
il accélère.
Magnifique.
Il est pour Ficou.
Allez, l'essai.
Boyfana.
Oui.
Boyfana.
Essai de
Boyfana. C'est terminé. La France, les Bleus battent l'Écosse 35-16 avec le bonus et remporte le tournoi destination. C'est le 27e de l'histoire du rugby français. Et 3 ans après le Grand Chelem, Galtier et ses hommes sont à nouveau sur le toit de l'Europe.
La Dream Team, comme d'habitude, qui nous donne des frissons sur RMC. Wilfried Templier, Denis Charvet, Christophe Cessieux hier soir au Stade de France. Alors c'est vrai qu'il n'y avait plus qu'une marche à gravir, transformer l'essai hier soir. Les Bleus ont souffert face à l'Écosse, il faut bien le dire, mais ils ont remporté, vous l'avez entendu, le tournoi des 6 nations, le deuxième de l'ère Galtier, 3 ans après le Grand Chelem de 2022. Les montagnes russes pour ce 15 de France dans ce tournoi, entre la balade face au Pays de Galles, le crash de Twickenham, la boucherie de Rome, le triomphe de Dublin... Et le stress écossais hier soir, la musique qui fout les jetons. Et cette question, les Bleus ont-ils réalisé un grand tournoi? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Cédric Emans.
Oui.
Pascal Duprat.
Oui.
Philippe Saint-André.
Oui, oui.
On va dire beaucoup de bien, on va dire oui, parce qu'on adore dire du bien. Alors, évidemment, je dis à tous les auditeurs que souvent je cherche, même quasiment tout le temps, une confrontation. Mais quand le 15 de France s'impose dans le tournoi destination, j'ai pas voulu forcer. Et on va en dire du bien, même si forcément il y a des nuances dans ce tournoi des destinations. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux hier soir au Stade de France, c'est Pierre Thévenet. Alors Pierre, les Bleus voulaient des titres. Hier, ils étaient tout simplement heureux.
Oui, beaucoup de joie forcément au coup de sifflet final malgré un match laborieux. Les Bleus battent l'Écosse, remportent ce tournoi. Grand moment de bonheur fêté par les joueurs sur la pelouse. Antoine Dupont, capitaine blessé, est venu soulever ce trophée. Un rêve pour Greg Aldrit.
Je voulais absolument voir Antoine lever ce trophée pour toutes les raisons que vous connaissez, mais pas besoin de l'expliquer. Moi j'étais le capitaine de cette équipe ce week-end, mais notre capitaine du 15 de France c'est Antoine, donc c'était à lui de lever cette coupe. Voilà.
Après la désillusion de la Coupe du Monde, le tournoi 2024 raté, la tournée en Argentine qui avait tourné au fiasco, les Bleus avaient besoin de renouer avec le succès. Le demi de mêlée, Maxime Lucu, savoure.
Ouais, il y a beaucoup de bonheur. J'ai 32 ans, j'avance dans ma carrière aussi. Et des titres, je n'ai pas beaucoup gagné, donc je suis content pour tout ça et c'est ça qui primait depuis 2 semaines. On sent que l'équipe de France est énormément suivie. On essaye de leur procurer beaucoup de plaisir avec le jeu qu'on produit. Honnêtement, d'avoir des supporters comme ça et d'être suivi comme ça, ça donne une fierté d'être français aussi. Pouvoir donner un petit peu de bonheur avec le rugby et de gagner des titres, c'est quelque chose de bien pour le pour eux et pour nous.
D'autant que ce trophée vient récompenser une vraie progression du 15 de France. Même si le match d'hier soir a été compliqué, les Bleus jouent mieux, sont de plus en plus dominants, à l'image de leur victoire en Irlande. Vraie satisfaction pour le sélectionneur Fabien Galthié.
Je pense que l'équipe aujourd'hui est meilleure que celle de 2023. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte dans notre développement. Je pense que l'équipe a progressé par rapport à 2023. Justement parce qu'elle est passée par 2023 aussi, donc on est très heureux.
Mais les Français n'étaient pas non plus euphoriques. Heureux, mais calmes, ce succès les rassure, les conforte dans leur projet de jeu. Mais comme le dit Romain Tamac, ce n'est qu'une étape.
On va bien profiter ce soir parce que gagner un titre, c'est jamais anodin. Il faut vraiment pas le banaliser parce qu'on n'en gagne pas tous les jours et on sait combien c'est dur d'en gagner, surtout le tournoi à destination. Mais encore une fois, ça fait partie de notre roue, de notre chemin. Il y a encore quelques tournois avant de jouer cette Coupe du Monde. Et on sait très bien que l'objectif suprême, ça sera cette Coupe du Monde en Australie.
Ce tournoi n'est que le deuxième remporté par le 15 de France depuis 2011, mais après les célébrations, les hommes de Galthié vont vite se tourner vers l'avenir avec l'objectif d'un grand chelem dans le tournoi l'an prochain, toujours sur la route de 2027.
Merci beaucoup Pierre Thévenet pour toutes ces précisions. Évidemment, ces principales réactions de nos tricolores hier après la victoire dans ce tournoi des Six Nations. Les Bleus ont-ils réalisé un grand tournoi? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai beaucoup de oui, évidemment, dans le studio RMC. Pourquoi oui, Philippe Saint-André?
Pourquoi oui? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, gagner un tournoi destination sur une année impaire, c'est-à-dire que tu le déplaces trois fois. La dernière fois, c'était en 2007. Donc, c'est déjà un résultat exceptionnel. Après, sur le contenu, 30 essais marqués en 5 matchs. Ça fait 6 essais de moyenne. Des records incroyables. Ramos, qui vient de devenir le meilleur buteur de l'histoire, il vient de dépasser Michalak, 8 essais pour Bielbarré, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis après, voilà, des joueurs qui, Moefana, que j'ai trouvé excellent, qui est peut-être l'homme du Six Nations pour l'équipe de France. Alors, la seule chose négative, c'est qu'on a perdu Antoine Dupont. Par contre, voilà, on a une génération, on a des joueurs qui ne se lâchent pas. Hier, ça a été compliqué, hein, ça a été difficile, mais elle a cette capacité à chaque fois de marquer dans leur temps fort, de marquer sur des ballons de récupération. On a subi énormément pendant 40 minutes et à la fin on met 35 points quand même aux Écossais. On gagne encore avec le bonus offensif alors que c'est pas la meilleure performance. Pour moi, les deux meilleures performances ont été en Italie et en Irlande, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'équipe de France maintenant voyage très bien,
mais on n'oublie pas Twickenham quand même dans l'équation, parce que j'ai l'impression que tu l'oublies là,
bien sûr, mais Twickenham, on a fait, je crois, 27 en avant, on a loupé 4 ballons d'essai. Et à 2 minutes de la fin, on menait encore de 6 points. On menait encore de 6 points. Donc, contre l'Angleterre, c'est un accident. Mais les Français ont quand même bien réagi après.
Ok, c'est un accident. Pascal Duprat voulait prendre la parole.
Je voudrais parler de l'Angleterre. Je trouve que le match que les Français ont livré en Angleterre était, quoi qu'on en dise, même s'il a été perdu, était un match maîtrisé. Ils avaient concassé les Anglais aussi. Et si ce match, ils le refaisaient 10 fois, ils le gagneraient 10 fois à coup sûr. Donc, même ce match perdu, il donnait de l'espoir, parce que cette équipe de France, elle survole le rugby européen comme jamais elle ne l'a survolé. Voilà. Aujourd'hui, c'est incontestable. On peut me raconter ce qu'on veut. On peut me parler de Galthié. On peut me parler du fait bien dommageable que Dupont soit blessé. Ben, ça prouve que Loukou est capable de le remplacer. Et peut-être que dans les joutes futures, ben, ça aura du sens que Maxime Loukou ait pu jouer quelques matchs avec l'équipe de France. Non. Et puis, il y a aussi une dimension. Cette dimension, c'est la dimension émotionnelle. Dans ce pays qui se liquéfie, ben au moins le 15 de France, il fait honneur à la France. Voilà, donc je suis très fier d'être français et très fier d'aimer le 15 de France et ses joueurs, hein, qui nous le rendent bien. Voilà, c'est un tournoi vraiment accompli où on peut s'enthousiasmer, même quand on a affaire à des valeureux et très bons Écossais, parce que les Écossais étaient très bons. Et là où je me rends compte que j'aime le rugby, mais que j'y comprends rien, c'est qu'à la mi-temps, je me chie un peu dans le froc, et puis j'ai reçu un SMS, et bien, il y a Philippe qui a dit que dans 15 minutes, les Écossais allaient exploser. C'est ce qui s'est passé. Bravo Philippe, ça se voit que tu étais sélectionneur.
Exactement. Vous avez entendu cette marque de respect, cette ode à la France de notre ami Pascal Duprat. J'avais l'impression d'entendre Marc Madiot, vive le général de Gaulle. Bravo. Mais à un moment donné...
L'avant-match était exceptionnel. Hein. L'avant-match, ouais, sincèrement, la Marseillaise, même l'hymne écossais, c'était une ambiance exceptionnelle.
Oui, mais on va pas dire. Ouais,
même Luana l'habitant.
L'habitant est extraordinaire.
On va pas débattre des avant-matchs, s'il vous plaît, les copains, sinon on n'a pas fini. Cédric Clément, j'ai l'impression que tu voulais prendre la main. Tu n'étais pas forcément tout le temps d'accord avec Pascal.
Alors, sur le plan comptable, bien sûr que ce tournoi est une grande réussite. On bat des records, on gagne, mais on ne fait pas de grand chelem. Moi, je voulais plus revenir sur le jeu. On n'a pas eu un jeu pendant tout ce tournoi abouti. On n'a pas eu des premiers lancements très efficaces. On a même vu, face à l'Irlande, la première attaque était un peu complexe. Et hier soir, jusqu'à la mi-temps, on tremble, on a peur, hein, on ne sait pas, on n'arrive pas à maîtriser le ballon, on ne l'a pas. Les Écossais jouent très bien. Alors, je le redis, oui, grand tournoi. Comme l'a dit Philippe, sur quand tu sors trois fois et que tu gagnes le tournoi, c'est un exploit. Mais sur le plan du jeu, je reste sur ma fin.
Ok, tu restes sur ta fin. Sur le plan du jeu, évidemment, on détaillera un peu plus en profondeur parce qu'on va se projeter sur 2027. Est-ce que tu restes un petit peu sur ta fin aussi, Simon, ou non? Pour toi, c'est parfait là.
Eh bien non, absolument pas, parce que un petit peu. Alors, je vais aller encore plus loin que ce qu'a dit Philippe. Pour moi, remporter le tournoi en faisant 4 sur 5 en année impair, c'est ça vaut un grand chelem en année pair. Voilà, quand tu va en Irlande et en Angleterre. Bon, bah, c'est si tu fais la fine bouche à la fin. Moi, je rappelle que bon, je suis ce qu'on appelle un boomer. Hein, j'avais l'habitude de
assister
à la. Non, mais tu sais, c'était la fessée annuelle contre les Anglais. Je me souviens des triplés de Ronnie Underwood, ces mecs-là qui nous le good game à l'époque.
De Will Carling.
Voilà,
le good game à la fin du match.
Moi, j'ai grandi là-dedans et je vis dans une époque désormais fabuleuse. Hein, je me régale où on en est à faire la fine bouche en disant on a paumé à Twickenham, on est vraiment des losers. Est-ce que ce 15 de France vaut quelque chose? Donc, Pascal, je souscris à ce qu'il a dit. Je pense que si on refaisait le match, il y a eu tellement de ballons portés, de ballons échappés à Twickenham. Je pense que on rejoue le match, on le gagne à tous les coups. Donc, voilà, il y a l'émergence. Cédric, t'es bien placé pour ça, d'un Biel Barré qui s'affirme comme un des phares du rugby mondial. On a réussi à gagner sans le mec qui visiblement nous faisait gagner à lui seul tous les matchs, Antoine Dupont. Donc, voilà, il y a eu cette dernière marche qu'on voyait quasiment trop facile, finalement on est allé se la peler, quoi, tu vois, cette dernière victoire. Donc non, il y a évidemment une satisfaction. C'est la troisième fois qu'on remporte le tournoi en 15 ans, donc on va pas, évidemment que c'est un grand tournoi, on l'a gagné.
Ok, c'est un grand tournoi, mais je sais pas si vous avez bien entendu l'exposé de Simon Dutin et son début, surtout, parce que ça m'amène quand même, avant de marquer une courte page de publicité, cette question. Pour vous, il faut me répondre oui ou non. Est-ce que cette victoire en 2025, est-ce que ça vaut un grand chelem? Oui ou non, Simon Dutin?
Ah oui.
Cédric Emmons?
Non, un grand chelem reste un grand.
Un grand chelem, on avait peur. Hein.
Non, un grand chelem reste un grand chelem, c'est la question.
Pascal Duprat?
Non.
Non. Philippe Saint-André?
Non.
Ok, ils vont tous sauter à la gorge de Simon Dutin dans quelques instants. Restez bien avec nous dans les grandes gueules du sport. On continue de débriefer cette magnifique victoire du 15 de France hier et plus globalement cette victoire dans ce tournoi destination. À tout de suite.
Oui, c'est oui,
oui,
c'est
oui. RMC jusqu'à midi.
Premier match, premier trophée. Biel Biarret, Penaud, Ramos, je les ai tous appréciés.
Les grandes gueules du sport.
Voilà, tout était bien, le match était bien.
On est champion, on est champion.
Maxime, il a fait un match impeccable.
Jean-Christophe Drouet.
On est champion.
Et oui, on est les champions. Le 15 de France s'est imposé dans ce tournoi destination après cette victoire face à l'Écosse hier soir 35-16. On continue largement d'en parler dans les grandes gueules du sport. À partir de 10h, restez bien avec nous. On vous débriefe le premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Il s'est passé énormément de choses. Ça a été le chaos à un moment donné sur la piste. Jean-Luc Roy sera avec nous. Mais nous allons rester sur le 15 de France avec cette question. Les Bleus ont-ils réalisé un grand tournoi? On a un petit peu fait évoluer cette question. Les GG ne sont pas d'accord. Mais juste avant, un point sur le ski parce que c'est très important. Clément Noël vient de s'élancer pour la première manche du slalom en Norvège. Morgan Mori, bonjour.
Bonjour Christophe, Jean-Christophe, bonjour à tous. Salut, bonjour les GG. Clément Noël qui joue le petit globe de slalom, il ne l'a jamais remporté. Il a presque 80 points de retard sur Henrik Kristoffersen, le Norvégien qui joue à la maison ici à Fjell. On a mis les meilleures conditions pour le local, pour le Norvégien. Et Clément Noël est en tête au premier intermédiaire. Un petit centième sur Kristoffersen qui s'était lancé avec le dossard numéro 1. Il faut faire un gros coup aujourd'hui pour se rapprocher. Le passage de la double est tout en vitesse, il est délié. Clément Noël, c'est très rapide pour l'instant. Il arrive à l'intermédiaire de la mi-course. Il a augmenté son avance, 35 centièmes d'avance sur le chrono de Kristoffersen. Il est très beau à voir skier Clément Noël. Le passage du mur, la dernière portion de cette course, il est toujours aussi rapide Clément Noël, mais il a perdu du temps, encore un centième d'avance, une marge infime pour Noël sur Kristoffersen dans cette première manche du slalom. Il arrive dans la partie au soleil de cette piste qui n'a pas été injectée pour privilégier les forces de Kristoffersen. Le plat final pour Clément Noël qui s'arrache pour passer la ligne d'arrivée avec 32 centièmes d'avance. Joli coup du Vosgien. Il est en tête après le passage de Christoffersen. Ils ne sont que deux à s'être élancés. Noël devant Christoffersen, 32 centièmes derrière. Il y a d'autres tricolores en première manche. Steven Amier qui est le prochain à s'élancer d'Ossar 13. Paco Rassa avec le 21. Victor Mufajandé avec le 25. Mais peut-être une très bonne première manche de Clément Noël à Afsir.
Oh oui, une très belle première manche et évidemment la deuxième manche sera à suivre sur RMC. Ce sera à quelle heure, Morgane Maury?
Début de la deuxième manche à 12h30.
Voilà, mais déjà on viendra valider avec toi dans quelques instants cette première manche avec nos autres Français. Allez, le 15 de France, les Bleus ont-ils réalisé un grand tournoi? Et avant, vous avez entendu la publicité, je vous ai posé cette question parce que c'était l'avis de Simon, ça vaut un grand chelem en année paire. Cette victoire en année impaire et les rugbymen ne sont pas du tout d'accord. Cédric Emmons, pourquoi non?
Non, parce qu'un grand chelem c'est le Graal. Quand tu rentres dans ce tournoi, bien sûr de le gagner c'est important, mais le Grand Chelem ça a une autre dimension, c'est-à-dire que t'as mis tout le monde à l'amende, que t'as pu rouler sur tout le monde, que t'as pu imposer ton jeu. Faut pas, c'est beau de gagner un tournoi, mais c'est pas un Grand Chelem. Le Grand Chelem c'est un mythe, c'est la raison quand tu rentres dans ce tournoi de se dire enfin.
Et il faut pas galvauder un grand chelem, donc il faut pas
il faut pas banaliser,
il faut pas prendre cette victoire pour un grand chelem.
Juste une phrase, le grand chelem c'est invaincu. Le grand chelem, tu ne perds pas un match. Donc
exactement.
On peut pas dire que c'est un très bon résultat de gagner ce tournoi destination, mais tu ne fais pas les grands chelems.
Je veux pas faire une fixette sur Twickenham, mais est-ce que finalement, ça nous fait du bien de nous dire qu'il y a encore une marge de progression et on roule pas encore sur tout le monde, cette défaite, Philippe, en Angleterre?
Après cette défaite en Angleterre, moi je trouve que c'est dommage parce que tu les rejoues 10 fois, tu gagnes 9 fois.
Donc il y a un regret chez toi.
Ben, oui, il y a un regret parce qu'on avait fait beaucoup de fautes de main. Pendant 50 minutes, on les domine, on a 70% de possession. À la mi-temps, tu dois mener de 20-25 points. Le problème des Anglais, à Twickenham, si tu ne les tues pas dans tes temps forts, eh ben ils reviennent et c'est ce qu'ils ont fait et ils te gagnent à la dernière minute.
Ce qui est quand même nouveau, c'est qu'on se pose plus la question de savoir si on peut gagner ou pas en Angleterre. À notre génération, on y allait, on se disait combien on en prend.
Ouais. Maintenant, on est favoris
et surtout, on s'est déplacé en se disant on va gagner en Angleterre, ce qui nous a amené, je pense, une pression supplémentaire et c'est pour ça que on a été fébrile. Mais les Anglais en Angleterre, si t'es pas clinique sur les ballons que t'as, après les Anglais restent des Anglais et c'est eux qui gagnent à la fin. Mais ce tournoi est encourageant. Je pense que cette équipe, elle est pas née, mais il y a eu un renouveau au soir de l'Irlande. C'est là où, à mon avis, la nouvelle histoire démarre après 2023.
Il y a eu la bascule pour l'Irlande. Est-ce qu'il y a un petit goût d'inachevé pour toi, Pascal, ou non, justement, cette défaite fait partie du parcours?
En fait, tout ressemble à un grand chelem. Mais malheureusement, ce n'est qu'un tournoi gagné et c'est pas un grand chelem parce qu'il y a cette défaite en Angleterre. Vous en parlez, et vous en parlez bien sûr mieux que moi. Moi, c'est la première fois. Je suis vraiment amateur de rugby. C'est la première fois que je me rends compte qu'on peut au rugby outrageusement dominer, concasser l'adversaire et perdre. C'était la première fois que je voyais ça. C'est parce que je suis un amateur et non initié. En football, ça arrive souvent, mais voir l'équipe de France autant dominer un match qu'elle ne l'a fait en Angleterre et le perdre, franchement, je l'avais jamais vu et je pense que je le reverrai jamais. La même domination à 10 fois sur 10, ça donne une victoire et c'est pour ça que c'est pas un grand chelem. La France a bel et bien perdu en Angleterre, quoi qu'on en dise.
C'est vrai, mais il faut pas non plus se cacher non plus derrière notre petit doigt et se dire que cette défaite, comme je le disais, fait partie du parcours. Il faut pas la renier. Ça a été un accident, c'est vrai, et c'est vrai que parfois les Bleus nous ont habitués à perdre comme ça. Le fil d'un match, et on se souvient de ce quart de finale face à l'Afrique du Sud. Je vous propose justement d'écouter Fabien Galthié après la rencontre au micro du diffuseur France Télévisions, mais il parle de la mi-temps d'hier, parce que à la pause, les Bleus ont bien failli être menés face à l'Écosse. Et écoutez ce qu'il dit, Fabien Galthié.
Il y avait comme une sorte de vraiment gagner la compétition, c'est très dur. Il y avait vraiment un état un peu fébrile, on va dire, une forme de fébrilité liée sûrement à l'enjeu. C'est une équipe qui était totalement relâchée et ça crée ces moments délicats pour nous. Et donc on a essayé de casser la chape de plomb. Voilà, dans le vestiaire, on a brisé la chape de plomb.
La chape de plomb, la pression, comme en quart de finale de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est là l'axe de progression?
Exactement, c'est là où ils doivent progresser. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu à la mi-temps. Ils sont, c'est pas l'équipe de France qu'on a vu dominer son sujet. Alors, je suis d'accord avec Pascal, mais dans le rugby, si tu domines physiquement, t'as pratiquement 80% de chances de gagner. Et cette équipe, elle doit passer un cap, mais mentalement. Il y a un vrai travail de la part de Fabien Galtier, de son staff, de psychologiquement apprendre aux joueurs à rester persuadés de leur force, parce qu'ils deviennent fébriles, et quand ils sont fébriles, ils déjouent. Et cette équipe, elle est jeune, elle est en train de grandir, de se construire. On a eu le mondial pour le comprendre. On a touché du doigt ce plafond de verre, hein. Psychologique. J'insiste vraiment, parce que physiquement, on est prêt. Il faut casser ça. Et peut-être que hier soir, la seconde période, ils ont lâché les chevaux et ils se sont dit, si on déjoue, ben l'enjeu est en train de tuer le jeu. Et c'est,
vous pensez
et c'est
qu'en première mi-temps, l'équipe de France a été transi par l'enjeu.
Moi, il m'a semblé. Ils l'ont dit, les joueurs. Hein. Thomas Rameau, je crois, l'a dit
il
aussi.
Il m'a semblé qu'ils étaient suffisants. Voilà, ils ont fait des fautes d'indiscipline. Ils ont été deux fois, sanctionnés. Une fois, franchement, où Movaka, il a pas le droit. Donc j'ai l'impression qu'ils étaient un peu suffisants. Ils défendaient moins bien qu'ils n'ont défendu.
Pascal, je veux pas entendre. Pardon, le mot suffisant, c'est.
Ça n'existe pas au rugby.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux pas, ce mot-là qualifie pas cette équipe, mais je pense qu'ils avaient la peur de gagner, tout simplement. Après l'Angleterre, on a dit, ils ont fait preuve de suffisance. Non, ils étaient fébriles, tout simplement. Et hier soir, à la mi-temps, mais c'est ça, ils sont fébriles, tout simplement, hein.
C'est bon du temps.
Ouais, moi je voulais remercier Philippe de nous rappeler ce que c'est qu'un grand chef, c'est quand on gagne donc tous les matchs.
Il a pris son téléphone de ChatGPT et en avant.
Non, mais parce que toi t'avais dit c'était un grand chef. De nous rappeler, non mais je te remercie. On est aussi là pour faire un peu de pédagogie. Donc une défaite, c'est quand ça marche
quand
pas.
Le perds.
Grand chef, ça marche
tu
pas.
Tu ne pensais pas que la balle perdue viendrait de ce côté-là.
Non, mais surtout je comprenais pas Simon qui me disait oui c'est un grand chef.
Non mais
donc j'ai été obligé de lui.
Alors voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Le 15 de France a fait 10 grands chelems dans son histoire. Il en a fait 3 seulement en année où il se déplaçait 3 fois. En 68, en 81, on jouait encore à 5. En 98, on jouait déjà à 6. En 87 et en 2004. On a fait le grand chelem en se déplaçant en Irlande et en Angleterre, mais sinon c'est tout. Là, je parle sous votre contrôle parce que je te remercie d'avoir installé un débat, tu vois, dans lequel je suis a priori pas d'accord avec 2 anciens internationaux et un ancien sélectionneur. C'est cool à défendre. Vous avez gagné combien de fois, vous, messieurs, à Twickenham en tant que joueur? Vous y alliez toujours en vous disant tranquille, c'est les Anglais, si on gagne pas, on est vraiment des minables.
Ou décidé d'appuyer là où ça faisait mal.
T'en as parlé. Moi, j'étais la génération de Will Carling et de Good Game. J'ai perdu 21-19, j'ai perdu 13-12, j'ai pas gagné à Twickenham.
Le fameux
en tant que joueur.
Les Anglais ont cette phrase hyper énervante. One point is enough. Un point, ça suffit, tu vois, pour gagner. Tu rentres à la maison, t'es pas content.
Gagner, toi. Je pense avoir gagné, je m'en rappelle pas, mais j'ai pris un paquet de good game aussi. Hein.
Donc non, c'était juste pour dire, et c'est pas pour dévaloriser la performance, mais en 2022, on se déplace en Écosse et au Pays de Galles. Bon, voilà, là, on fait 4 sur 5, on passe à un point de la victoire à Twickenham. Tout le monde de la vie générale dit que les Français étaient au-dessus. Moi, je trouve que ce tournoi, bon, certes, c'est pas un grand chelem dans les archives, il restera pas comme ça, mais je trouve que la performance, elle est absolument admirable.
Cette pression autour de cette équipe, et c'est vrai qu'elle l'avait parce qu'elle l'a annoncé avant, elle veut gagner ce tournoi même en année impaire, elle veut gagner pour effacer quelque part aussi ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde. Bref, il y avait de la pression. Mathieu, au 32-16, veut nous en parler. Bonjour Mathieu.
Salut les GG, salut toute l'équipe. Salut,
bienvenue dans l'émission. Interdit de s'en prendre à Philippe Saint-André, il vient de prendre son quota là. Hein.
Okay. Je vais essayer de ne pas en mettre plein la figure à Philippe, c'est promis.
Allez, vas-y, dis-nous ce que tu en penses.
Non, moi, qu'est-ce que je pense du tournoi? Statistiquement parlant, l'équipe de France fait un très bon tournoi. Quand on voit que le Pays de Galles, on leur met 40 points, ils repartent de Paris, Fanny. L'Angleterre, c'est une erreur de parcours. On doit leur mettre 40 points chez eux encore une fois. L'Irlande, on les concasse chez eux, c'est magnifique. Et hormis, je pense, cette erreur de parcours en Angleterre et cette première mi-temps en Écosse, Enfin, moi, pour moi, cette équipe, elle est très très belle. Elle est en train de mûrir. Elle est très jeune par rapport à il y a deux ans en 2023 pendant la Coupe du Monde. Moi, je vois qu'il y a des mecs qui ont passé un cap comme Moefana. Moefana, je trouve qu'il est beaucoup plus en vue que par le passé. Il attaque un peu plus la ligne déjà. Il y a des mecs qui commencent à prendre du lead là-dessus, des mecs comme Movaca, pareil, même si hier, voilà, il fait une erreur qui doit normalement lui coûter cher pour moi. Mais voilà, et le sentiment que j'ai eu à la fin du match et de ce que j'ai vu à la télé, c'est que je pense qu'on a un peu galvaudé, comme vous dites si bien, on a un peu galvaudé cette victoire-là, c'est-à-dire que l'ambiance était presque comme si le fait de ne pas avoir fait le grand chelem. C'est comme une sorte de défaite en fait. J'ai senti que Mathieu Lartaud et Dimitri Ajuli en fait ils étaient un peu tristes entre guillemets. Et Galtier l'a bien rappelé, on a dit mais on a quand même gagné quoi.
Pour avoir la chance d'être au stade, il y avait une superbe ambiance. Hein, ouais. Les Français, le public a poussé derrière son équipe. Alors, j'ai pas écouté ce qu'ont dit les commentateurs de France 2. Mais...
Non, mais on sent pas la grosse émotion. Je parle pas forcément des commentateurs, mais on n'a pas senti la grosse émotion de la part des joueurs après le match. Vous voyez, dès qu'il y a le coup de sifflet.
Parce qu'ils sont aux portes de toucher. Du moins, ils ont pris. La réalité est remontée. Ils savaient qu'ils avaient la capacité. De faire un grand chelem et c'est ça que je pense qu'il est tempère on est passé pas loin dans une année impaire.
Moi j'ai une autre analyse, hein, c'est qu'ils ont été secoués par les Écossais, ils s'attendaient pas à cela. La première mi-temps, tu arrives pas à mettre le ballon, t'es un peu timoré, t'es impatient, tu commences à être indiscipliné, tu prends un carton jaune, tu prends un deuxième carton jaune, et ils ont été secoués par les Écossais. Et après, par contre, notre banc à la 46e minute a fait la différence. Donc le match a été très compliqué hier, même s'il y a la victoire, on a joué une belle équipe d'Écosse.
Ok, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'euphorie comme ça d'explosion, même si les Bleus sont évidemment, vous l'avez entendu tout à l'heure, très heureux après cette victoire dans le tournoi Destination. Merci beaucoup Mathieu d'avoir composé le 32-16. Sachez qu'on va reparler évidemment de ce 15 de France à 10h30. Est-ce que c'est bleu, là, cette équipe, est-ce qu'elle a déjà marqué l'histoire avec aussi tous ces records à l'appel? On se posera la question. Et puis 11h30, on se demandera si Fabien Galtier a retrouvé son fameux totem d'immunité, un petit peu comme dans Koh-Lanta. Vous me direz ce que vous en pensez. Les GG ne sont pas d'accord, en tout cas. À tout de suite sur RMC pour le On s'en fout, on s'en fout pas. Et puis à 10h, le débrief du Grand Prix d'Australie. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h48, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Cédric Emmanche, Pascal Duprat, Philippe Saint-André, Simon Dutin à partir de 10h. Donc on débrief la victoire de Lando Norris, le premier Grand Prix de la saison. Il s'est passé énormément de choses. On va tout vous dire. On va vous raconter l'histoire des Ferrari qui n'ont pas forcément Grand Prix réussi ce premier Grand Prix de la saison. Et puis également nos Français avec Isaac Hadja, le rookie pour son premier Grand Prix qui s'est malheureusement craché lors du tour de formation. On vous raconte ça à partir de 10h avec Jean-Luc Roy. Mais tout de suite, on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Avant de vous parler du zapping, un petit point avec le slalom, la première manche. Vous l'avez vécu en direct il y a quelques instants. C'était parfait pour Clément Noël. C'est Steven Amier qui est dans le portillon de départ. Morgane Maury.
Oui, ça part pour Steven Amier, le skieur de Courchevel. C'était parfait pour Clément Noël, mais deux skieurs ont fait mieux. On en revient dans un instant. Loïc Meillard et Fabio Kstrein. C'est parti pour Steven Amier. Le troisième piqué est très compliqué en dévers. C'est un peu accroché, mais c'est parti pour Steven Amier. Pas encore de podium en Coupe du Monde. Dixième du classement de la spécialité. Il chasse son premier podium de Coupe du Monde. C'est le premier intermédiaire. Retombe, il est derrière. 6 dixièmes sur le temps de référence de Meillard. C'est pratiquement le temps de Clément Noël à ce passage. Là, dans le deuxième intermédiaire, il est beaucoup plus rapide, Steven Amier. Il trouve de l'agressivité sur cette neige qui n'a pas été injectée, cette neige norvégienne. Deuxième intermédiaire qui arrive dans un instant. Il a perdu un tout petit peu de temps, 71 centièmes de retard. Ça peut aller chercher une place intéressante. Le passage de la bosse, le mouvement de terrain pour arriver dans le mur, la partie finale de ce slalom, cette première manche d'Afiel. Là aussi, il est bon, Steven Amier. Pas de faute. 10 dixièmes de concédé, 8 dixièmes de retard, 83 centièmes sur le chrono de référence. Pas d'essai plus dans la pente pour aller chercher. Oh, il a pris un saut sur un mouvement de terrain, il est déséquilibré, il va abandonner Steven Amier. Abandon de Steven Amier dans cette première manche. chahuté sur le mouvement de terrain, il n'a pas pu se récupérer. Fin de cette première manche, abandon de Steven Amier. Meilleur temps pour Loïc Meillard, 44 centièmes d'avance sur Fabio Strein, l'Autrichien. Troisième position pour Clément Noël à 52 centièmes du Suisse. Christoffersen, qui est en tête du classement de la spécialité, est à 84 centièmes, donc 3 dixièmes derrière Clément Noël. Steven Amier s'est peut-être abîmé un poignet parce qu'il allait taper une pancarte publicitaire en sortant de la piste. À venir pour les tricolores, Paco Rassa avec le 21 et Victor Mufajandé avec le 25, deuxième manche à 12h30.
Ouais, quelle déception pour le camp français. Il s'est peut-être fait mal au bras, Steven Amier. Évidemment, on viendra prendre des informations dans quelques instants. Allez, première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'Angleterre quand même deuxième du tournoi destination. Qu'on en dise un mot, on s'en fout pas, Simon Dutin.
One point is enough, on a gagné, je m'en fous.
Ok,
m'en fous pas.
Cédric Clément, s'en fout pas. Philippe Saint-André,
on ne s'en fout pas.
Ok, et Pascal Duprat,
je m'en fous.
Tu t'en fous. Ok, et c'est la première fois Cédric Clément s'intéresse.
C'est pour ça que je lève les bras.
Au zapping des GG. Alors je vais te compter cette information. Oui, l'Angleterre termine donc deuxième du tournoi destination en remportant le point de bonus offensif face au Pays de Galles. Victoire écrasante 68 à 14. Bon, en même temps, même un EHPAD roule sur le Pays de Galles en ce moment. Mais c'est une victoire à signaler. Et puis, dans le même temps, l'Irlande s'est imposée dans la douleur. Là, cette fois-ci, en Italie, 17 à 22. Du coup, au classement, la France, donc première avec 21 points. L'Angleterre, deuxième, 20 points. L'Irlande, troisième, 19 points. On n'attendait pas forcément l'Angleterre à ce niveau-là déjà, même s'ils ont été demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde.
Ben, ce qui est incroyable, c'est que la France les a relancés. Parce qu'ils ne savaient plus gagner. Pendant les tests de novembre, ils perdent 3 matchs sur 4, d'un point, 2 points. Ils vont en Irlande, ils perdent. Et si jamais ils avaient perdu contre nous, ils allaient être au fond du fétou.
Et là, un entraîneur mis dehors.
Et là, cette victoire a redonné de la confiance à cette équipe. Et sincèrement, leur match le plus abouti est hier contre le Pays de Galles, parce que quand même, ils marquent 10 essais à Cardiff, même contre des Gallois qui sont en difficulté. Et les Anglais ont fini très fort ce tournoi destination.
Alors moi, je vais faire un contre-pied, un crochet. Les Anglais, je m'en fous qu'ils soient deuxième. C'est surtout à travers cette question de savoir, le Pays de Galles est vraiment trop faible. C'est triste à voir. Mais les Irlandais, ils sont en train de perdre leur jeu. Ils ont une génération qui
en
va partir.
Ils sont
à la fin de la fin d'une histoire. Alors, j'aurais dû répondre oui, je m'en fous. Mais non, parce que la faiblesse des autres équipes relance.
Et t'as pu donner ton avis, c'est parfait. 5 défaites pour le Pays de Galles, moins 119 au goal average. Bon courage évidemment aux Gallois. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Nantes qui accepte à contre-cœur d'aider le Paris Saint-Germain. Là, est-ce que je vous ai mis l'eau à la bouche? Là, on s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Ok.
Je m'en fous pas.
Ok. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Oui, c'était limite.
C'était limite.
Oui, Philippe Saint-André.
Je vais laisser parler Pascal, donc je m'en fous.
Et Cédric, parce que ça l'intéresse. Il a décidé de tout prendre aujourd'hui, Clouton. Le FC Nantes va donc accepter de décaler son match prévu lors du week-end du 12-13 avril contre le Paris Saint-Germain, qui souhaite plus de repos entre ses deux quarts de finale, aller et retour de Ligue des Champions contre Aston Villa. Alors à la base, les dirigeants nantais étaient contre. Voici un extrait du courrier adressé cette semaine aux membres du conseil d'administration de la LFP. Si nous sommes les premiers supporters du PSG en Ligue des Champions, nous ne pouvons accepter de sacrifier notre fin de championnat pour nos amis parisiens. Comme tout le monde le sait, la lutte pour le maintien en Ligue 1 est intense et nous ne pouvons imaginer que la LFP vienne porter atteinte à l'équité et l'intégrité du championnat en modifiant la séquence de nos matchs à venir. Mais hier, après la victoire face à Lille, bien Nantes a un peu changé d'avis. Antoine Camboire.
Bien sûr que nous, c'est très handicapant. La première décision, c'est de refuser cette date-là, parce que enchaîner 3 matchs, quand vous jouez le maintien, c'est compliqué. Alors nous, on a dit, si on doit jouer avec ce match qui est reporté donc au mardi ou mercredi, la condition, il faut qu'on puisse jouer dans le derby contre Rennes le vendredi. Comme ça, ça nous laisse suffisamment de temps pour récupérer. Après, pour le PSG, ils ont les matchs du championnat déjà gagnés, mais apparemment, ils souhaitent déplacer le match, donc on va le faire. Il y a aucun souci de ce côté-là. Si ça peut les aider à passer ce tour contre Aston Villa, spécificité française. Des fois, il y a des combats qui sont inutiles. J'ai arrêté de me battre parce que se plaindre, pleurer, c'est pas moi.
Ok, et Antoine Camboret, qu'on salue, qui est un ami de l'émission.
Et grand golfeur. Et très grand golfeur.
Devant l'éternel, je suis d'accord. Cédric, tu voulais dire ça ou tu voulais dire autre chose?
Non, je pense qu'il résume tout à fait. C'est-à-dire qu'après, avant le match de hier soir où ils gagnent, ils étaient carrément sous pression. Ils luttent pour le maintien, mais ça manque d'élégance. Du moins, on a une équipe qui est capable ou peut-être d'aller au bout en Ligue des Champions. Il faut aussi, à travers ce décalage de match, l'accompagner pour pouvoir permettre qu'une équipe de notre championnat gagne la Ligue des Champions.
C'est vrai, mais Pascal, on peut aussi comprendre qu'une équipe qui joue le maintien, c'est le cadet de ses soucis, non, le PSG?
Oui, c'est-à-dire, oui, le FC Nantes, son souci premier, c'est de rester en Ligue 1, et Dieu sait si c'est compliqué. Donc c'est bien logique que d'abord le FC Nantes s'enquérisse de l'équilibre de son calendrier plutôt que de celui du Paris Saint-Germain. Ça, c'est logique. Mais encore une fois, c'est à la LFP de prendre ses responsabilités et de proposer un calendrier que les Anglais, qui pourtant sont plus nombreux que nous, jouent plus de matchs, arrivent à mener sans problème pour privilégier les parcours en Coupe d'Europe de ces clubs. Donc bravo à Antoine hier, parce qu'ils ont gagné alors qu'ils étaient 10 contre 11 contre Lille.
Exactement.
Donc bravo à lui.
Ça leur donne un petit peu d'air. Troisième information très rapide à vous donner, parce que j'adore cette information, c'est le propriétaire de Nice qui n'aime pas aller voir jouer son club. Je vous demande pas si ça vous intéresse ou non, je vous dévoile l'information tout de suite. Alors, propriétaire de Manchester, vous le savez, United et Nice, le patron d'Ineos, Jim Ratcliffe, a déclaré dans un entretien au Times qu'il n'aimait pas aller voir le gym à cause du niveau de jeu. Voici ce qu'il dit. Avec Nice dans le championnat français, vous pouvez acheter un club pour 100 millions de livres. L'accès est beaucoup moins cher qu'en première ligue, mais je n'aime pas particulièrement aller voir Nice parce qu'il y a des bons joueurs, mais le niveau de football n'est pas assez élevé pour que je m'enthousiasme.
Bah c'est incroyable.
C'était le président.
C'est pitoyable.
Ça motive quand t'es joueur de Nice, ça doit te motiver, toi.
Le début de saison lui a pas donné tort, mais depuis quelques matchs, c'était quand même pas mal. Nice, ils sont quatrième ce matin. C'est un peu mieux que son autre club, non,
Même s'il le pense. Il y a un problème.
Ouais, hein. Qu'ils le disent. Ouais.
Il pique ses joueurs.
Non, il a envie de vendre suffisamment.
Ouais, je pense qu'il les connaît pas, ces joueurs.
C'est bon, ça. Voilà, c'était juste pour vous donner cette information, chers auditeurs. C'est à retrouver sur rmcsport.fr. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour débriefer le Grand Prix de Formule 1 et puis on reparlera du succès du 15 de France. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.